Azul, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées et grâce à mon expertise d'infirmière, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie, je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement et bien sûr reconversion. Si tu veux vraiment sortir de ton mal-être, si tu veux retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, réserve ta séance offerte avec moi, on prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir si le programme Kintsugi est adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie dans le podcast, une ex-infirmière qui a fait un burn-out, qui a testé plein de choses avant de trouver sa voie et de prendre soin d'elle correctement. Et donc on va parler de neuroatypie, de TDAH, d'hypersensibilité et surtout de comment utiliser finalement son super pouvoir quand on est un peu atypique pour éviter le burn-out et pour savoir se nourrir au travail. Bref, je t'en dis pas plus, je te laisse écouter le podcast. Coucou Aurélie, bienvenue dans le podcast Le Café des Burnies. Comment tu vas ?
Impeccable.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi de m'inviter surtout.
Avec plaisir. Moi, je t'ai choisi parce que, au-delà de faire des bilans de compétences, en plus qui sont plutôt axés personnes neuroatypiques, ce qui m'intéresse, c'est surtout que tu sois concernée finalement par le burn-out, que tu sois passée par là. Tu sais exactement ce que ça fait de le vivre, tu sais ce que ça fait de vouloir s'en sortir, et je pense que ça reste quand même une valeur ajoutée lorsqu'on veut accompagner des personnes qui veulent faire des bilans de compétences, qui sont généralement dans un contexte de reconversion, parce que ça se passe mal au boulot, quoi. Et, moi, tu comprends mieux, je trouve qu'on comprend mieux la difficulté de l'autre, parce que qui dit bilan de compétences dit quand même beaucoup de questionnements. Et certaines filles ne sauront pas répondre à des questions très basiques. Si toi, tu n'es pas passé par ça, par cette phase de flou total, de déconnexion de soi, tu pourrais dire, elle se fout de ma gueule, ou tu vois, comment ça se fait, elle ne peut pas répondre à ça.
Il y a encore beaucoup de honte, je trouve, autour de ça. Ou de dire qu'on a fait un burn-out, quoi. C'est toujours comment va être perçu ce mot.
Toi, à quel moment il est tombé?
Moi, ça a été assez insidieux, en fait. Il est tombé bien avant que je tombe, justement, parce que j'ai fait un accident de ski. En fait, moi, c'est le corps qui... mais mon corps est très résistant, malheureusement. Et du coup, il en faut beaucoup. Et c'est un accident de ski qui m'a terrassée, hein, puisque c'était le genou. Et quand j'ai eu mon accident, tout mon entourage m'a dit « Ah, au moins, là, tu vas être obligé de te reposer. »
Ouais.
Je me suis dit, mais pourquoi ils disent ça? Et en fait, ouais, là par contre, mon corps a complètement lâché, s'est complètement relâché et je me suis dit, waouh! Et là, j'ai pris une grosse, grosse claque parce que je ne m'en étais pas du tout rendu compte.
Du coup, toi au boulot, ça se passait comment?
Alors, en vrai, donc moi, enfin voilà, c'est vrai que j'ai cette particularité de neuroatypie, mais je l'ai découvert après. En vrai, ça s'est toujours bien passé et à la fois toujours mal passé. C'est-à-dire que sur le papier, tout paraissait nickel, mais parce que je compensais, surcompensais à mort. Mais au fin fond de moi, si je m'étais écoutée, non, ça se passait pas si bien. Il y avait des red flags, hein, que j'aurais dû voir. Genre, changer souvent de... Enfin, moi, j'étais infirmière, donc au départ, changer souvent de service. J'ai changé de structure, hôpital, clinique, libéral. Voilà, il y avait toujours un petit truc quoi qui faisait que... Alors, je trouvais toujours des super excuses, hein, mais voilà, au final, ça faisait un petit moment, je pense. Mais ça s'est accéléré après dans le libéral avec l'association qui a été encore plus pesante pour moi, parce qu'elle m'a encore plus demandé de me suradapter. Et voilà.
Non, mais je dis souvent qu'à un moment donné, moi, j'avais changé de service. Et donc, j'arrive dans un service, honnêtement, tu vois, de soins palliatifs, c'est le service que je voulais faire. Aujourd'hui, on va dire qu'il fait partie des rares services qui sont encore bien lotis. Donc, il y avait tout pour être heureux. Il y avait tout pour que ça se passe bien. L'équipe, elle était bien, tout ce que tu veux. Mais étant donné que tu n'as pas réglé, t'as pas réglé ce qui s'est passé dans les autres services, tu traînes ça, tu traînes cette valise avec toi là où tu vas. Et donc, même dans les endroits les plus corrects, tu as toujours le même stress, tu as toujours les mêmes appréhensions, tu as toujours la même fatigue. Et en fait, voilà, il faut, quand tu te mets comme ça à changer de boulot, de poste, de service, et à chaque fois il y a un truc qui va pas, franchement, c'est que c'est le moment de se reconnecter à soi et de, ouais, d'aller prendre soin de soi, d'aller régler ce qui ne va pas.
C'est ça.
Et donc, tu penses qu'ils étaient quoi, toi? Tu as eu des signes, mis à part le genou, tu vois, avant?
Oui, avant, oui, j'avais des phases de. Alors, comme c'était le début du premier burn-out, donc j'avais des phases parce que j'en ai fait un et un beaucoup plus profond. Enfin, c'est-à-dire que le premier n'était pas réglé en grand.
Voilà, la rechute, elle t'a.
C'est ça. Ouais, les petits moments où j'avais des phases, en fait, où. Tout allait bien, c'est bon, non, en fait, j'aime mon métier, nanana. Et je redescendais en mode, voilà, quoi, j'étais en dépersonnalisation. Et ce mot-là, par exemple, je ne m'en rendais pas compte, c'est-à-dire le côté un peu, je me blinde en m'en fichant de ce qui se passe pour ne pas ressentir trop fort les choses et pour me dire que tout va bien. Et j'avais ces phases comme ça où le matin, je me demandais ce que je faisais, alors que quand même, le métier d'infirmière, c'est quand même un métier qui a du sens, à
C'est clair.
base. Et puis il y avait d'autres matins où j'étais trop contente d'être là, voilà. Donc ça, moi au départ, ça faisait un petit peu ça. Et j'avais des insomnies que je mettais sur le compte de c'est normal, tu te lèves à 5 heures du mat, ou alors c'est normal, il y a ci ou il y a ça, ou enfin il y avait plein de petits trucs comme on trouve toujours des rationalisations, de petites douleurs aussi physiques, c'est normal, c'est une petite qui veut ça. Voilà, il y avait qu'est-ce que je pouvais avoir d'autre? Enfin, il y avait tellement que je sais même plus. Mais...
Niveau social, toi, pour toi, ça s'est passé comment?
Ouais, alors au niveau social, pareil, je me disais que c'était normal en fait. Je voyais tellement de monde que c'est normal que je m'isole. Tout à fait, on voit trop de gens. Voilà, c'est tout à fait normal. Et sauf que c'est pas à la base, c'est pas mon tempérament quoi. Et au début, j'ai commencé quand même à avoir des sautes d'humeur, un peu. Genre, le truc que j'aurais supporté, là, ça commençait à, voilà. Mais voilà, tout était normal, en fait.
Bah, étant donné que tu veux pas admettre que ça ne va pas,
C'est ça.
tu vois, tu es dans ton déni. Alors du coup, le cerveau, il va toujours trouver une bonne raison, une bonne excuse pour expliquer, pour justifier. Et à quel moment tu t'es dit, là, non, c'est bon. Là, j'ai plus de raison. Là, je trouve pas d'argument. Ou malgré les arguments, en fait, non.
Ah ben là, ouais, bien après, donc quand j'ai repris après mon accident de ski, j'ai repris quand même genre 3 ou 6 mois après. Mais là, en plus, j'ai une problématique avec ma collègue. Ah oui, j'avais aussi des difficultés relationnelles. Je croyais que tout était de ma faute. Donc
Aïe,
après, j'ai compris pourquoi. Et en fait, après, j'ai repris un peu vite, hein, bien sûr. Et puis à fond, surtout. Je m'en rappelle, je crois que quand j'ai repris, j'ai fait 15 jours d'affilée.
sans
Et
repos.
sans repos. Et j'ai
Libéral,
enchaîné.
ça, non?
Ouais. Et j'ai enchaîné après pendant 3-4 mois à bosser comme une débile. J'ai repris 10 fois plus qu'avant, quoi. Mais
Ouais.
voilà, tout ce qu'il faut. Et du coup, quand c'est revenu après la deuxième fois, c'était quoi déjà ta question? Tu vois, j'ai oublié
Je disais à quel moment tu t'es dit
Ah oui.
que malgré les bons arguments que je peux sortir, là non, là ça va pas.
Bah en fait, voilà, au bout d'un moment, donc je me suis rendu compte, bah, pareil, je me suis fait opérer de la main, j'ai eu une boule à la main, comme le boule du. Le chirurgien m'avait dit, vous êtes menuisier? Je dis, non, non, je suis en. Et du coup, là, j'ai eu un arrêt, et là, j'ai senti direct que tout ça, les petits trucs, enfin, j'ai refait un peu le fil, je me suis dit, non, en fait, là, ça va pas, donc j'ai voulu vendre. Et du coup, ça s'est très, très, très mal passé avec mon ex-associé. Et là, en fait, voilà, ça a été la dégringolade et la chute vertigineuse en mode. J'arrivais plus à rien, quoi. J'étais complètement figée et je n'arrivais plus à rien, ni à réfléchir, ni à avancer, ni à savoir. J'en étais arrivée à un stade où j'étais nulle, j'étais incompétente. Qu'est-ce que
Bah
tu.
surtout si au-delà de tous les maux, donc j'ai mal au genou, enfin je me suis pété le genou, j'ai une boule à la main, j'ai mal ci, j'ai mal là, je dors mal. Donc oui, je pense que si tu accumules déjà tout ce qui n'allait pas, et qu'en plus la chute, c'est que quelque part je me fais arnaquer,
Ouais.
en termes
Ah
d'estime
oui.
de soi, tu vois, t'es quand même
Ah oui.
râle et pâquerette, y a plus rien, c'est trop pour un individu.
Ouais, non, là j'ai ouais, voilà, j'ai frôlé le. Mais en plus, j'avais tenté de me reconvertir toute seule et en fait, j'ai fait kinésiologie, diététicienne, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Closing, enfin, je sais plus ce que j'ai fait, je fais catch up. Ah, et
La
naturopathe.
recherche de soi.
Et naturopathe. Mais en fait, à chaque fois, je trouvais les mêmes. En fait, je revivais les mêmes choses que ce que je vivais dans mon métier d'infirmière. Et je n'avais pas intégré qu'en fait, j'étais en train de fuir quelque chose sans régler le problème, quoi.
Bah, en gros, bah, tu es en train de. Tu sais, l'histoire du doliprane, là.
Exactement.
Tu as mal ou tu fais de la fièvre, bah, tu vas prendre ton doliprane. Effectivement, ça va enlever le symptôme, mais bon, on ne sait pas pourquoi. Tu as de la fièvre et pourquoi tu as mal. Donc, c'est ça. Et tu vois, les infirmiers, comme quoi, hein, c'est vraiment l'histoire du cordonnier.
Ouais.
C'est grave. Enfin,
Après, je me suis.
je le dis pour moi
Ouais.
aussi. Mais comme quoi tu pourrais faire la même réflexion à quelqu'un d'autre et tu dis, moi. Mais en même temps, tu sais, c'est compliqué. Hein. Parce que quand c'est avec soi, ça reste très subjectif. Tu es tellement noyé dans tes émotions, tu es tellement noyé dans ton négatif que tu vois pas les choses aussi clairement que lorsque tu es détaché de l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est toujours plus facile de conseiller quelqu'un d'autre que se conseiller soi.
Ouais, c'est surtout qu'on est tellement dans le soin à l'autre que après, si on est dans le soin à l'autre, c'est aussi voilà, parce qu'on a un profil qui s'écarte de soi, quoi.
Ça, c'est un gros travail que de dire j'ai beau être empathique, bienveillant, au service de l'autre et tout, mais en fait, non, il peut pas passer avant moi. C'est pas logique.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah,
Et
c'est drôle.
même si ça paraît évident, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer réellement.
Ah
Ou vraiment, voilà, au quotidien, je me rends compte en me disant, attends, là tu dis trop, là tu dis trop oui, là tu, voilà, t'es trop présente en fait pour les autres, moi je me retrouve avec zéro temps pour moi, mais c'est pas aussi évident que ça finalement. C'est de l'appliquer pour de vrai. Et du coup, t'as fait quoi toi pour...
alors moi j'ai fait un coaching. J'ai fait un coaching. Alors j'avais fait psy, mais bah, je pense qu'elle n'a même pas vu que je faisais un burn-out. Ou alors peut-être qu'elle a vu, mais en tout cas, elle m'avait rien dit. Et elle m'avait surtout rien dit non plus sur ma neuroatypie et tout. Et du coup, j'ai fait un coaching. Et en fait, c'est là que j'ai compris mon fonctionnement, pourquoi. Et je trouvais ça tellement passionnant. Je me suis dit, mais enfin, voilà, je ne peux pas rester avec ça, quoi. Et du coup, j'ai pris le temps de ce coaching pour bien intégrer tous ces concepts. Enfin, pour le vivre dans ma vie quotidienne de tous les jours, j'étais en arrêt maladie, hein, mais ça, c'est des choses qu'on peut quand même vivre dans sa vie de tous
Ah,
les
bien
jours.
sûr.
Parce que ce qu'on fait au boulot, on le fait aussi dans la vie de tous les jours.
Tout à fait.
Et du coup, bah, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tous ces concepts et à me dire, waouh, j'aimerais bien que tout le monde ait ces concepts-là parce que tout le monde est concerné par ça, quoi.
Et du coup, là, tu me parles d'un coaching qui était adressé aux femmes neuroatypiques, c'est ça?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, non, j'avais pris une coach, mais qui était elle-même neuroatypique, mais qui m'a de suite décelé, effectivement. Alors au départ, je n'ai eu que l'hypersensibilité décelée et qui rajoute une couche sur le fonctionnement de la prédisposition burn-out, les fameux drivers, fait plaisir, soit parfait. Voilà.
Ok, mais du coup, concrètement, qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce, tu vois, en action,
En action, ce que j'ai fait, bah,
voilà.
ouais. Alors en action, très clairement, le coaching m'a beaucoup aidé parce que du coup, ça m'a permis à, bah, à comprendre mon fonctionnement. Et je crois que enfin, pour le fonctionnement que j'ai, c'est très important de comprendre comment je fonctionne. Du coup, c'est comme si j'avais la lecture du mode d'emploi d'une machine que je n'avais jamais utilisée.
Ouais.
Donc forcément, du
Donc
coup,
là, on parle beaucoup de connaissance de soi.
ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a vachement ouvert. C'est waouh, mais en fait, voilà, je fonctionne comme ça. Et c'est comme si j'avais utilisé une voiture en sous-régime pendant. Ou en sur-régime pendant des années, alors qu'il y avait d'autres manières de faire. Donc là, ça a été la grosse révélation. Et du coup, après, bah, c'est le passage à l'action, parce qu'effectivement, comme tu dis, la théorie, c'est une chose, la pratique, c'en est une autre. Donc comment je fais tout coup pour déconstruire tout ça dans mon quotidien? Et c'est en le mettant en place dans mon quotidien perso que forcément, après, j'ai mis aussi dans mon quotidien pro. Et puis en voyant les effets que ça fait et la clarté, moi ça m'a rendu de la clarté tout ça déjà sur moi-même. Et quand
Ouais.
j'ai vu les effets aussi que ça faisait sur moi, ben forcément, je savais que c'était que le début, mais je savais que en tout cas, c'était libérateur, quoi.
Ok. Et il y a d'autres, peut-être, tu vois, au-delà de la connaissance de soi, ce que Il y a des sphères de ta vie que tu as dû revoir et
Ah
ajuster.
oui, bien sûr, toute ma sphère privée parce que c'est indissociable en fait, ce qu'on fait dans le pro, on le fait dans le privé. Donc effectivement, bah savoir dire non quand tu sais pas dire non à un patient, généralement tu sais pas trop dire non autour de toi non plus.
Ouais.
Ça a été moi ça a été vraiment le gros fait plaisir, enfin le driver vraiment où je donnais tout pour tout le monde, où je pensais que à partir du moment où j'arrêtais de donner aux gens, de dire oui, c'est que j'étais méchante. J'avais toujours cette problématique en fait. Il y avait aussi l'aspect quand même travail de confiance en soi qui a été super important aussi quand même parce que alors qu'il n'existe pas maintenant je le sais c'est l'estime de soi mais enfin bref ça a été vraiment un travail autour de ça et surtout un travail autour de ma neuroatypie encore une fois parce que c'est un autre fonctionnement qui vient rajouter au burn-out et du coup voilà mais ça s'est pas fait du jour au lendemain par je ne suis passée que par le mental entre guillemets puisque j'ai fait que du coaching bizarrement j'ai pas eu le choix que de me mettre au repos naturellement. Parce que je faisais beaucoup de sport à la base. Et là, j'avais même plus envie. J'arrivais plus du tout. Et je m'écoutais, mais en me culpabilisant au départ. J'ai pas fait les bonnes choses et les bonnes techniques en vrai sur tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui que je connais
D'accord.
grâce à mon école. Mais la première chose que j'ai fait, et pas des moindres, c'est quand même le coaching. Et ça, c'est déjà une bonne porte d'entrée, quoi.
C'est clair parce que bah, à partir du moment où tu commences à déconstruire, bah, c'est là où tu peux faire. Et donc c'est plus facile finalement de faire. Alors que
Ouais.
si tu te lances dans des routines self-care, à revoir ton alimentation, à te remettre au sport, mais que là à l'intérieur c'est toujours le même.
Ah, ouais.
Le même process qui tourne, bah en fait, ça va être. C'est pas que c'est contre-productif, mais ça donnera pas de résultat parce qu'en vérité, à chaque fois, tes actions, elles sont liées à tes pensées. Et si tes pensées, elles sont biaisées, bah forcément, les actions, elles peuvent qu'être à côté de la plaque.
Ouais.
Et du coup, c'est quoi la définition d'une femme neuroatypique?
Bah déjà, il y en a plusieurs neuroatypies, c'est ça. Après, tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, bon, bref, il y a plein de controverses. C'est un fonctionnement différent. En gros, pour retenir, c'est un fonctionnement différent, mais du coup, qui va forcément avoir un impact parce que comme le fonctionnement est différent, on se suradapte énormément aux neurotypiques. Donc, sachant que pour arriver au burn-out, il faut de la suradaptation, autant te dire que c'est double effet qui se coule.
Et donc aujourd'hui, est-ce que tu sais dire quel est l'environnement professionnel qui est toxique pour une personne neuroatypique?
On a tous des besoins profonds quand on part le matin bosser. Ce qui n'a rien à voir avec le fameux ikigai. Enfin, on pourrait faire le lien, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, en gros, quand on part en rando, on a besoin des choses dans son sac. Ben là, c'est un petit peu pareil. Quand on va au travail, on a besoin de mettre des choses dans notre sac de rando pour être heureux au travail. Et les connaître véritablement, c'est pouvoir répondre à bien les nourrir. Et l'environnement toxique, c'est typiquement là où tu peux pas nourrir tes besoins, où tu n'arrives pas à les nourrir pour raison X, Y, Z. Parce que quelquefois, tu peux pas les nourrir tout simplement parce que structurellement, c'est pas possible. Mais quelquefois, tu les nourris pas parce que tu n'oses pas, par exemple, exprimer tes besoins à ton employeur. Ou à
Et
ton...
donc, la différence entre neuroatypique et typique, ce serait les besoins profonds.
Non, on a tous des besoins, mais je te donne un exemple. Par exemple, dans le besoin de plaisir chez un neuroatypique, bon, ben, ça reste le besoin de plaisir. Mais pour un TDAH, il faut savoir qu'on n'a pas de dopamine. Donc ça, c'est un trouble qui fait partie de notre trouble. Sauf que du coup, on en a tout le temps besoin. Tout ce qu'on fait doit avoir une récompense. C'est comme ça. Et c'est parce qu'on n'a pas de récompense ou parce qu'on sait que la récompense va être loin ou parce que voilà, que du coup on ne fait pas et qu'on va être dans la procrastination par exemple.
D'accord.
Ou à l'inverse, qu'on va dans la procrastination active et être en sur-régime.
Pour en fabriquer
Ouais, c'est
le
ça.
plus possible.
Donc en fait, l'idée, c'est que bah, forcément, le besoin de plaisir pour un TDAH est vachement plus important que pour une autre personne. Mais c'est vrai que, bon, par exemple, on a aussi un gros besoin de sécurité chez nous en général, parce que du coup, on en manque. Du coup, il va être un peu plus important. Donc forcément, on ne peut pas se permettre dans une structure qui ne nous l'offre pas ou être sous couvert d'un manager qui ne nous permet pas de verbaliser qu'on a besoin de sécurité. Enfin, c'est des petits détails comme ça, mais on a tous les mêmes besoins. Enfin, on n'a tous pas les mêmes besoins, mais on a tous des besoins à nourrir.
Besoin qui, oui.
Mais chez un neuroatypique, on va regarder la particularité de la neuroatypie et le besoin derrière.
Parce que du coup, dans la neuroatypie, on va mettre tout ce qui est TDAH, hypersensible, qu'il soit intellectuel ou émotionnel.
Voilà, c'est là que l'hypersensible n'est pas toujours associé au neuroatypique parce que ce n'est pas un trouble. Donc, soit effectivement, ça reste un neurodivergent, c'est-à-dire que ça reste une personne qui a un fonctionnement différent. Enfin, tous les endroits peuvent être adaptés à partir du moment où tu as conscience de tes besoins profonds.
Imaginons, tu es un manager et tu es un neuro-atypique. Et donc, tu dois interagir énormément avec les autres, que ce soit en dessous, au-dessus, à côté. Est-ce que tu peux me donner le truc genre le plus fréquent et qui peut déclencher enfin, des relations conflictuelles au travail, quoi?
Bah, j'ai eu le cas d'une fille qui était venue me voir. En fait, elle a eu la problématique, c'est qu'elle s'est retrouvée du coup à devoir écouter la direction qui lui avait dit de ne pas dire, enfin, N plus 1 plutôt, qui lui avait mis au parfum d'un nouveau projet, mais qu'il fallait pas le dire, mais que du coup, qu'ils allaient devoir se débarrasser de certaines parties de l'équipe et scinder l'équipe entre deux, de machin et tout. Et elle était proche de l'équipe qu'elle essayait de faire performer pour avancer dans les projets. Du coup, elle s'est retrouvée entre guillemets plus entre les deux chaises, on va pas, hein, pas dire d'autre. Et du coup, en fait, le gros conflit interne, parce qu'en plus de ça, donc elle est hypersensible et suspicion de TDAH, elle est en train de se faire diagnostiquer. Donc en fait, la difficulté qu'elle avait là, tu vois, typiquement, c'était, ben, par exemple, en fait, je peux pas ne pas dire la vérité parce que ça fait partie de mes valeurs qui sont ultra méga super importante pour un neuroatypique, ne l'oublions pas. L'injustice étant le truc qui nous fait péter les boulons. Et puis ben, du coup l'honnêteté aussi vis-à-vis de son employeur, enfin de son directeur, je veux dire. Et du coup en fait, ben, le fait plaisir là est carrément activé. Et du coup, enfin là il y a eu un gros conflit de valeurs, il y a eu un message contraignant qui est arrivé direct. Et elle s'est retrouvée vraiment dans une position inconfortable qui fait qu'au final, elle n'a pas exprimé ses besoins à son directeur, elle n'a pas pu parler à son équipe. Et en fait, elle s'est retrouvée en situation, elle a explosé en plein vol et en plus, elle a pris toutes les critiques du haut et du bas. Donc au final, elle a pas. Là, tu vois, typiquement, grâce aux besoins qu'elle a vus, elle s'est rendue compte, et aux valeurs, on a fait le parallèle entre ces deux choses, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle s'était mise en conflit interne et ça, typiquement, c'est toxique. Donc du coup, forcément, comment on fait pour réunir deux valeurs qui sont contradictoires? Comment on fait pour réunir des besoins aussi qui peuvent être contradictoires? Et comment on fait pour les exprimer aussi? Parce que c'est ça aussi l'idée. Donc en fait.
Parce que tu vois, les conflits internes, pour le coup, ça concerne absolument tout le monde.
Absolument.
Alors, on pourrait dire que si tu es neuroatypique, tu vas le vivre fois 10.
Ah, tu le vis fois 10, mais il faut savoir que c'est à peu près toujours les mêmes conflits qui reviennent. Liberté, sécurité.
Ok, j'ai envie de dire aussi pour tout le monde. Je pense que peut-être que la différence, c'est vraiment une question d'intensité, voilà. Est-ce que c'est pas le mot
Mais si tu veux, ça reste toujours, en fait, un neuroatypique a souvent énormément besoin d'autonomie et de liberté, tout simplement parce qu'il n'a pas à se suradapter.
Ok.
Mais il a besoin d'énormément de sécurité parce qu'il n'a absolument pas confiance en lui et parce qu'il n'a pas eu un socle. Enfin, il a toujours tellement suradapté à l'autre qu'il ne sait même pas qui il est, en gros.
Il est. Ok.
Donc, c'est en ça que c'est la particularité typique du neuroatypique. Alors, oui, évidemment, tu peux retrouver chez un neurotypique, mais ce n'est pas celui-là qui est tout le temps là.
D'accord, ça marche. Et donc, si on bascule dans le côté plutôt atout,
Ah oui, par contre,
ben,
voilà.
un neuroatypique, qu'est-ce qu'il pourrait apporter
Bah, l'avantage et sans ça, moi, que vraiment c'est mon cœur de métier, c'est ce que j'adore faire, c'est en faire un atout stratégique en fait. Parce que bah, par exemple, quand on est TDAH, on est hyper créatif, on a ces phases d'hyper-focus qui sont super chiantes, mais d'un autre côté, parce que derrière, on est des épaves hein, si on ne sait pas les maîtriser. Mais d'un autre côté, ça veut dire que quand on est figé sur un truc, on sort pas de là, on est vraiment performant dans ce domaine-là. Espèce de flow que tout le monde cherche à avoir, nous on l'a naturellement dans certains domaines. Donc à partir du moment où on a identifié ce domaine-là, bingo quoi, on fait les choses fluidement, tout est limpide, ça va vite, on est vraiment hyper focus là-dessus. Et on a aussi cette capacité d'empathie qui est quand même vachement plus importante. Et alors oui, c'est chiant parce que du coup, ben, on sent tout, on voit tout, on voit 10, les émotions et tout, mais c'est vachement bien aussi parce que ça nous permet de capter ce qui n'est pas palpable, ça nous permet de ménager la chèvre et le chou, de pouvoir éviter les. On évite souvent les conflits par ça, pour ça, mais d'un autre côté, ben, nous, on sait aussi les aplanir, si je puis dire. On se rend pas compte souvent les neuroatypiques, on a un fort leadership naturel. Sauf que comme on a cet auto-sabotage qui est énorme, ben, ça nous empêche de l'avoir naturellement. Parce que le leadership, c'est quand même, il n'y a pas que le côté, enfin,
Oui.
beaucoup l'associent à certaines choses, mais le leadership, à la base, c'est guider, inspirer et motiver.
Oui.
Et ça, on sait très très bien le faire naturellement. Parce que
Oui.
justement, on est authentique. Quand on ose être authentique et vulnérable, c'est ça qui guide et qui inspire et motive les gens, en fait. Et en plus, on est en général, on est tout le temps positif.
Oui.
On nous appelle le monde des bisounours qui voit tout le temps la licorne rose. Bah ouais, mais c'est quand même mieux que de voir le côté vide du verre. Et puis.
Bah, c'est clair.
Donc c'est vrai que voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que les atouts, il y en a, et c'est dommage qu'on les voit pas. C'est ça qui est intéressant. Quand on sait après manier son mode d'emploi, qui est quand même pas toujours évident dans le quotidien, on va pas non plus. Voilà, mais c'est justement plutôt que de lutter, c'est faire avec et en faire un atout stratégique différentiel quand on est entrepreneur, par exemple, ou qu'on peut utiliser dans son travail. Mais par contre, voilà, ça veut dire aussi le verbaliser. Alors, t'es pas obligé de dire que tu es neuroatypique, mais en tout cas, verbaliser ses besoins pour
Oui,
pouvoir.
bien sûr. Non, après les étiquettes, il y en a pour qui c'est très réconfortant parce que ça vient expliquer des choses, ça vient mettre des mots sur des situations, tu dis ah ouais, ok, je comprends mieux. Mais en soi, c'est pas qu'on s'en fout, mais tant que toi, t'as conscience de toi-même, d'accord? Et tu sais comment tu réagis, tu sais ce qui va te mettre hors de toi, tu sais ce qui va te nourrir, ce qui va te recharger, ce qui va te nuire, enfin. À partir du moment où tu essaies d'appliquer ce qu'il faut pour être heureuse dans la vie, au quotidien, bon, est-ce que c'est si important de crier sur tous les toits que tu es TDAH, que tu es HPI, que tu es machin?
Non.
Je trouve que le plus important, c'est entre toi et toi-même. Tu vois, une
Oui,
fois que tu as réglé.
mais c'est pouvoir aussi l'exprimer, parce que forcément, on n'a pas les mêmes besoins. C'est ça que je veux
Ouais,
dire.
tu dis tes besoins.
Voilà, c'est
Bien
ça.
sûr,
Ouais,
t'exprimes tes besoins, bien évidemment. Ah oui, là-dessus, il n'y a aucun
Et
souci.
si t'es 10 dans l'équipe et qu'il y en a 9 qui fonctionnent d'une façon et que toi, tu es la seule à fonctionner
Oui.
d'une autre, savoir exprimer,
Voilà.
ben, j'ai un cerveau qui fonctionne un peu différemment. Enfin, pas avoir honte d'oser dire certaines choses. Voilà comment moi je fonctionne et voilà de ce que moi j'ai besoin. Est-ce que c'est OK pour vous? Et ça fait toute la différence parce que du coup, ça permet bah, à tout le monde d'en avoir conscience. Et du coup, voilà. Enfin, moi je sais qu'à chaque fois que les filles l'ont adapté dans leur boulot respectif, à chaque fois, bah, c'est game changer et ça évite la reconversion quelquefois. Et c'est quand même mieux aussi.
Et après, être aussi prêt à ce que ce ne soit pas le cas.
Ah
C'est-à-dire,
oui, tout
toi,
à
tu
fait.
peux venir dire, écoute, moi, je fonctionne comme ça parce que j'ai ci, j'ai ça. Et en face, la personne, elle va dire, bah, j'en ai rien à foutre. Et là,
Et ben là, voilà. Et c'est là qu'on voit si le
là, on
coaching
va aller
a
voir
fait son
Aurélie.
effet. Ah non, au contraire, c'est voir si le coaching a fait son effet. C'est ben, j'ai le choix, soit je reste et je vais contre moi, ou soit je trouve un endroit où je pourrais respecter mon mode de fonctionnement et mes besoins, parce que c'est ça en fait la réalité, quoi.
Claire. D'ailleurs, imaginons, allez, on revient un peu à l'idéal. À quoi ressemblerait un environnement, tu vois, safe pour une neuroatypique?
Ce qui est certain, c'est la liberté, parce que c'est hyper important. Donc, c'est-à-dire vraiment, bah, c'est ça aussi, c'est l'ambivalence. À la fois le côté structurel de la chose, sécurité, et à la fois le pas rigide et pas bah, ça dépend après de la typie, hein, parce que bah, un TDAH, il ne faut pas du tout que ce soit routinier, par exemple. Mais en tout cas, une structure flexible et souple. Sinon, bah, c'est un red flag, ça c'est clair. Bienveillant, bien sûr, hein, parce que j'aime pas trop ce mot, parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, mais c'est vrai que s'il y a un environnement compétitif où tout le monde s'en fout de tout le monde, où il n'y a pas de reconnaissance, où on te laisse tout seul dans ton coin, bon, bah, là, ça n'a pas du tout le faire non plus, hein, on va pas se mentir. Un lieu où l'émotionnel était interdit, bien sûr, hein, puisque forcément, c'est encore pas trop compatible du tout,
Donc,
ça.
ça veut dire qu'un environnement idéal, c'est là où l'émotionnel est présent, pris en compte, écouté, verbalisé.
En tout cas, pas interdit.
Pas interdit, ok.
En tout cas, pas. J'en ai rien à foutre, moi, des états d'âme ici. Nanana. Bon, ben là, tu peux. Au revoir. Voilà. Et puis, voilà. En fait, après, encore une fois, ce que j'essaie de te dire, c'est que ça va dépendre de beaucoup de la neuroatypie aussi. Par exemple, pour un hypersensible, s'il est très, très. Il y a des hypersensibilités qui sont différentes. Hein. Il y en a, par exemple, ça va être le bruit, il y en a, ça va être l'odeur, il y en a, ça va être machin. Bon, ben, l'odeur, par exemple, tu ne vas pas travailler dans une usine à canards, hein, bien sûr. Le bruit, tu ne vas pas travailler dans des open space géants, là, où tu as un bruit, un brouhaha, voilà.
si on devait faire des gros chapitres, ce
Voilà, ça
serait avoir de la souplesse,
ouais.
mais tout en ayant de la reconnaissance
Ouais,
pour se
ça.
sentir en sécurité et pouvoir s'exprimer, être écouté.
Ouais, la sécurité, ça passe
Lever
aussi.
vraiment.
Ouais, c'est ça, ouais. La sécurité, ça passe aussi par la structure, hein. Ça passe par le, enfin, voilà, savoir concrètement ce que j'ai à faire. Mais pas trop non plus pour garder l'autonomie, c'est ce que je te dis, c'est l'ambivalence, c'est la
Mais
connaître.
tellement simple, bah parce que l'humain il est tellement simple. Donc j'ai ma fiche de poste, je dois m'y référer, mais attention, si de temps en temps je veux en sortir, revenir, élargir, étirer, bon, il faut que ce soit aussi faisable. Et ne pas tomber dans l'autre extrême.
Ouais, c'est ça, voilà.
Et ça, c'est ça qui mène un peu vers l'épuisement, c'est quand tu es trop souple sur ta fiche de poste et qu'il n'y a plus de cadre.
Exactement, exactement ça. Et c'est aussi bah, le management toxique, hein. Je veux dire, concrètement, si tu fais ça, on peut voir éventuellement pour ta promotion ou effectivement, on peut voir pour augmenter ton salaire si tu fais ça. Bon, bah, autant te dire que.
Éviter la carotte, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, à quel moment on vient te voir?
À quel moment on vient de me voir? En général, alors j'ai de tout. J'ai des gens qui veulent se reconvertir et qui ont attendu le dernier moment, qui ont fait un burn-out, qui sont en post-burn-out. Et souvent, aussi les gens qui veulent faire un point sur leur carrière, qui sentent qu'il y a un truc qui bloque ou sur leur entreprise, parce que j'utilise beaucoup aussi avec l'entreprise l'audit que je te disais là par rapport aux besoins profonds, et qui disent, ah mince, je bloque, enfin, il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas si tu connais le cycle de Hodgson. Non.
Peut-être si tu le décris, je vous dirai, ah ok, d'accord, mais que j'ai pas le nom, tu vois.
Ouais, c'est le cycle, donc c'est un sociologue, un psychologue, un coach qui avait fait ça. Donc c'est le premier truc, c'est le lancement, la lune de miel, tout va bien, c'est magique, c'est magnifique, c'est super. Et puis au bout d'un moment, on commence à douter, à se poser des questions, on ressent de la frustration, de l'ennui, mais c'est très léger, tu vois, c'est un petit truc, ça c'est la deuxième phase. Et cette deuxième phase-là, soit tu l'investigues et tu es encore en énergie haute et c'est cool, ça va être bénéfique, soit tu l'investis et tu repasses en phase 1 éventuellement. Soit tu n'investis pas du tout, tu fais genre comme ça, et tu risques de basculer, voire tu bascules en phase 3, qui est la phase de marasme, et donc c'est là que bah, tu es en perte d'identité, tu es en burn-out, pré-burn-out ou burn-out ou post-burn-out, après tu es en dépression pour certains, enfin c'est la phase où vraiment là, il est temps, enfin tu n'as plus le choix de toute façon, tu es obligé de faire quelque chose. Donc
Okay.
c'est la phase 2, on va dire, voilà.
Bah moi, c'était, tu vois, ce schéma, c'est ce qui se passe généralement dans mes accompagnements. C'est-à-dire que quand elles arrivent, elles sont wouhou, pump it up, tu vois. Limite, elles sont trop pressées parce que mes programmes, ils se débloquent au fur et à mesure pour laisser le temps à la personne de passer à la pratique, quoi. Le but, c'est pas juste de manger des vidéos. Et à un moment donné, il y a toujours une sorte de chute de la lune de miel, comme tu dis, une chute de motivation. Où il y a beaucoup de résistance aussi au changement et compagnie. Et ce moment-là, c'est le plus important parce que ça définit tout le reste. Soit tu arrives à la choper à ce moment-là, à la remotiver, à la maintenir sur les rails, entre guillemets, pour qu'elle reste dans sa motivation, soit tu la perds.
Enfin, moi, ce que je prends maintenant, c'est la phase 2. Avant, je m'autorisais à prendre en début de phase 3, mais enfin, je m'autorise encore, mais ça va être vraiment un début de phase 3 qui est quand même motivé et pas que je dois tirer parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont, surtout les infirmières, on va pas se mentir, qui sont en mode j'ai besoin que tu me sauves. Et ça, je ne prends pas.
Non, mais surtout qu'on va pas se mentir, les oh là là, ce qu'on a dit au début de l'épisode, c'est-à-dire que tu peux changer de voie professionnelle, il n'y a aucun problème aujourd'hui, il y a tellement de structures, il y a tellement d'outils, tellement de moyens. Mais si tu passes pas par l'étape où tu bosses sur toi-même, où tu changes ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon de dire, ta façon de réagir, ton rapport au travail, bah vas-y, fais autant de bilans de compétences que tu veux. Ça changera rien. Enfin, tu vas changer de boulot, oui. Mais le résultat, il sera quand même. Tu retomberas. Oh mon Dieu. Et tu vas faire comme ça, épuisement sur épuisement. Sauf que le corps, bah, il n'est pas non plus étirable à l'infini. Plus tu l'épuises, moins il tolère, moins il se reconstruit correctement, moins il s'adapte. Donc je comprends que tu ne veuilles pas des personnes qui ne passent pas par cette étape où prends soin de toi. Une fois que tu es au clair, viens, il n'y a pas de souci, on pourra faire le reste. Et ça dure combien de temps, toi, tes accompagnements?
Alors, jusqu'à présent, moi, ça a duré 3 mois. Mais là, enfin, surtout les TDAH, en fait, on a une particularité, c'est qu'on veut que ça aille vite. Toujours très, très vite. Donc, on est à fond motivé au départ. Et tout d'un coup, boum, plus rien. Mais il y a aussi la petite offre, c'est tout simplement l'audit que je te disais, enfin l'audit de qualité de vie au travail, mais avec les besoins profonds, où là c'est en deux séances en fait. C'est juste en fait, on fait une cartographie de ce que tu as besoin de mettre dans ton sac à dos pour aller en rando. Derrière, on fait 1 heure et demie de coaching pour voir tout ce qu'on peut aborder en séance de coaching fast. Et après, si elles peuvent partir sur plus loin, mais au moins déjà ça, quelquefois. Ça suffit à les remettre, elles savent ce qu'il faut qu'elles fassent et tout. Mais là, bon, là, on ne parle pas de burn-out, ça c'est clair.
Ok. Bon, dans tous les cas, tout commence par un appel offert.
Ouais.
Du coup, je mettrai le lien, hein, vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis de là, toi, tu analyses et tu recommandes ce qui est le plus adapté pour la personne. Bah, merci beaucoup
Merci à toi de
pour
m'avoir
ces
invité.
infos. Je ne sais pas si tu as un conseil ou un mot de fin, tu sais, pour bah, cette nana qui nous écoute là et qui va mal, clairement qui va mal et qui cherche des solutions pour sortir du burn-out. Et qui peut-être, bah, du coup, n'aura atypique et qui s'est reconnue dans ce que tu nous as dit.
Bah, j'allais dire, c'est ça. J'allais dire honnêtement, le principal truc que. Enfin, moi, vraiment, ma mission, c'est vraiment déjà de connaître, enfin, de se demander est-ce que finalement je suis pas neuroatypique? Parce qu'il y a beaucoup de neuroatypiques qui font des burn-out. Et si c'est le cas, de vraiment diagnostiquer si c'est TDAH, des choses comme ça, parce que ça a un énorme impact sur la femme, même sur les hormones féminines, et j'en ai pas parlé, mais voilà. Ce qui a un impact sur le travail aussi. Donc, en fait, c'est comme si on réussissait à enlever un problème d'un côté, mais qu'en fait, il y avait tout le reste aussi qu'on n'avait pas vu. Donc, voilà, vraiment prendre soin de soi et vraiment se poser les bonnes questions et en tout cas pas rester avec ça parce que là, par contre, je vais être très cash. On ne guérit pas tout seul.
Et
Non, mais
c'est
c'est vrai.
pas moi qui le dis, parce que je le dis quasiment à chaque épisode. Et cette fois-ci, c'est pas moi qui le dis.
Ah, non, c'est impossible. Enfin, croire que je vais m'en sortir toute seule, c'est. Pipi de chat. Parce que c'est ça aussi. Moi, j'ai laissé des années. Moi, je crois que mon plus grand regret, si je devais mettre un mot de la fin, c'est d'avoir laissé des années s'envoler.
Tu dis, j'aurais dû réagir plus vite, plus tôt.
En tout cas, j'ai laissé des années s'envoler et les années, elles ne se rattrapent pas, quoi.
Non, ça c'est clair. Et puis, ben, je te dis à très vite. Prends soin de toi, toi aussi, parce que c'est important. Et à très vite.
À très vite. Merci, Sarah. Salut.
Voilà, merci pour ton écoute. En espérant que le podcast, que cet épisode t'apportera ne serait-ce que du réconfort, mais pourquoi pas aussi des actions à mettre en place pour aller mieux. Si tu reconnais d'autres personnes, n'hésite pas à leur partager cet épisode, il peut leur être très utile. Et si tu veux échanger et aller plus loin avec Aurélie, tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Sinon, ben moi, tu sais où me retrouver. Sinon, ben on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.